Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 14 de la série « Où jeter l'ancre ». Et notre étude est la suivante. « J'ai été crucifié ». En effet, la Bible dit dans Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, eh bien je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ceci est le témoignage de l'apôtre Paul, un petit joyau de théologie personnelle au milieu d'une épître qui, elle, n'est pas si magnifique parce que ses correspondants, les Galates, étaient en effet rétrogrades. Mais dans ce verset, l'apôtre Paul dépose un petit diamant. Remarquez que ce court passage contient un tas de contradictions. J'ai été crucifié. Mais il y a là une contradiction, car celui qui aurait été crucifié, il me semble, ne serait pas là pour le dire. Ou bien il n'a pas été crucifié et il peut parler. Ou bien, il a été crucifié et il ne peut pas en parler. Mais voici un homme qui disait « J'ai été crucifié » et qui pourtant l'écrivait de sa propre main. Personne n'a jamais dit « J'ai été pendu », excepté naturellement s'il n'était pas dans son bon sens. Et personne n'a jamais dit au docteur « Docteur, envoyez chercher les pompes funèbres, car je suis mort. » S'il n'était pas mort, il ne dirait pas qu'il est mort, et s'il était mort, il ne parlerait pas au docteur. Et cependant, voici un homme qui dit clairement « J'ai été crucifié. » C'est une contradiction. Mais admettons que par quelque miracle, un homme ait pu dire « En effet, j'ai été crucifié » comme s'il eût parlé depuis l'autre monde à celui-ci. Alors, il se contredit en disant « Et je vis. S'il a été crucifié, comment pourrait-il encore vivre ? » Le verset nous dit « Je vis » et puis se contredit encore par la déclaration « Ce n'est plus moi qui vis. » Ça donne à réfléchir. Plus loin, il est dit « Si je vis maintenant dans la chair, moi, qui ai été crucifié et qui vit pourtant, mais qui ne suis pas vivant, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » J'ai délibérément accentué les apparentes contradictions, non que je crois qu'il y ait des contradictions fondamentales, mais parce que je veux que vous compreniez que vous ne pouvez pas lire superficiellement ce verset comme vous le faites avec la prière du Seigneur ou par exemple le psaume 23. Je crois non seulement qu'il signifie quelque chose de très précis, mais aussi que nous pouvons le mettre en pratique et le vivre chaque quelqu'un dans notre vie. L'apôtre Paul nous dit « J'ai été crucifié » et il utilise 14 fois les pronoms personnels. L'apôtre Paul n'a pas peur de parler de son « moi ». Le « moi » est la somme de tout mon être. Le christianisme reconnaît et résout le problème du « moi ». La plupart des écoles de psychologie, superficielles, il faut le dire, et d'aujourd'hui, essayent de traiter le problème du « moi » par des tours, on peut dire des tours de passe-passe, hocus pocus. Mais voyez-vous, le christianisme, lui, le traite en le liquidant définitivement. Ce n'est pas la même chose. Deux moi cohabitent dans chaque croyant. D'abord, il y a le moi naturel, c'est ce que saint Paul veut dire quand il écrit « Moi, mon moi naturel a été crucifié ». Et puis, il y a un autre moi, c'est l'homme réel, et c'est ce moi-là qui vit maintenant. J'ai été crucifié, je vis, et si je vis, ce n'est pas mon moi qui a été crucifié, mais c'est le Christ qui vit en moi qui a été crucifié. Je répète, il y a deux moi, deux moi qui cohabitent dans chaque croyant. D'abord, il y a le moi naturel. C'est ce que saint Paul veut dire quand il écrit « Moi, mon moi naturel a été crucifié ». Et puis, il y a un autre moi. C'est l'homme réel. Et c'est ce moi-là qui vit maintenant. J'ai été crucifié, je vis. Et si je vis, ce n'est pas mon moi qui a été crucifié, mais c'est le Christ qui vit en moi, qui a été, comme vous le savez, crucifié à ma place. Ici, la contradiction n'est qu'apparente. C'est ce moi, oui, ce moi naturel, est l'objet de la juste colère de Dieu. Il est l'essence de tout ce qui est anti-Dieu. Et laissez-moi dire ceci, que tout ce qui ne passe pas par la crucifixion et la transformation et par une nouvelle création en Christ est tout simplement anti-Christ. On essaye d'arranger les choses, bien sûr, mais tout ce qui n'est pas avec Christ est contre Christ. Voyez-vous, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, évidemment, et celui qui n'est pas avec moi disperse. On prêche beaucoup la tolérance de nos jours, mais le livre le plus intolérant qui soit dans le monde entier, c'est la Bible. Et le maître le plus intolérant que j'ai jamais enseigné publiquement a été le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je répète, tout ce qui n'est pas avec Christ est forcément contre Christ. Donc, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'est pas avec moi disperse. Notez Saint Luc chapitre 11, verset 23. On prêche beaucoup la tolérance de nos jours, c'est vrai, et comment? Mais le livre le plus intolérant qui soit dans ce monde, c'est bien bel et bien la Bible. Et le maître le plus intolérant qui ait jamais enseigné publiquement a été le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il y a une différence énorme entre être tolérant et être charitable. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut retenir. Donc, Jésus-Christ était si charitable que son amour embrassait le monde entier et qu'il s'est donné lui-même pour ceux qu'il haïssait. Mais il était si intolérant qu'il a dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Vous pouvez noter Saint Jean chapitre 8 verset 21. La ligne de démarcation dans l'alternative est si fine et si précise qu'il faut ou bien se mettre de son côté et vivre, ou bien se mettre de l'autre côté et périr. Il n'y a pas de moyen terme. Il n'y a pas d'équivoque dans l'enseignement de Jésus-Christ, pas de juste milieu. À cet égard, le christianisme règle le problème de mon moi par une destruction intolérante et définitive. Dieu prononce une condamnation sévère sur lui. Il le désapprouve absolument et le rejette entièrement et dit que ce moi rebelle, ce moi anti-Dieu, est plein de péchés et est une personnification de la révolte, de la désobéissance et de l'incrédulité. Avec ce moi-là, Dieu n'a rien à faire. Ça ne va pas plaire à ceux qui prêchent la tolérance. Voyez-vous, dans le cadre du christianisme, il y a deux positions correspondant à deux sortes de religions. L'une est que le Seigneur est venu pour aider mon moi et me débarrasser des complexes et des excentricités qui se sont manifestées en moi parce que ma mère m'a disputé quand j'étais petit. L'autre position est que Jésus-Christ est venu en finir avec ce moi-là, et nous ne devons pas l'éduquer ni le polir, mais plutôt y mettre fin, non le cultiver en lui donnant un amour pour Bach, Beethoven ou Léonard de Vinci, mais carrément le liquider. Dans la repentance et le renoncement à soi et dans l'expulsion de moi-même, je tourne le dos à mon vieux moi et je refuse de faire plus longtemps route avec lui. Je déserte donc ses rangs et viens rallier le camp de Jésus-Christ. Et dorénavant, je marche sous la bannière de la croix. Et c'est ainsi que le compte du vieux moi est enfin définitivement réglé. C'est ce que le baptême est censé de signifier. Voyez-vous, le baptême est un symbole, bien entendu. Et c'est un signe extérieur, visible, de ce qui est supposé être une réalité intérieure, à savoir que le vieux moi a été répudié et détruit. J'ai été crucifié avec Christ, plongé dans l'eau, et maintenant je vis car je suis sorti de l'eau. Je ne crois pas que nous devions jamais essayer de concilier ces deux positions. Ou bien Jésus-Christ est venu mettre fin au moi pour commencer une vie nouvelle, ou bien il est venu rafistoler le vieux moi. Il n'est pas venu faire les deux. Il n'agira pas d'une manière avec les uns et d'une autre manière avec les autres. Il agit de la même manière avec tous les hommes. Toute la substance de la théologie néo-testamentaire est que le vieux moi est complètement dégradé. Ses valeurs sont fausses et sa sagesse est sujette à caution. En lui, il n'y a rien de bon. Mais en Jésus-Christ, il y a un nouveau moi, un nouvel homme en Christ, et lui seul doit vivre. Et dorénavant, nous devons nous reconnaître comme morts au péché et évidemment comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc le moi naturel dresse un inventaire de ce qu'il lui faut. Il espère trouver quelque chose qui le fera échapper à la colère de Dieu et qui lui rendra Dieu propice, quelque chose qui lui permettra de faire l'œuvre de Dieu d'une manière satisfaisante et de développer au maximum tout le potentiel de sa nature. Chers amis, nous commençons tous notre existence avec un plan de construction et je suppose que très peu de gens le réalisent en entier. Nous construisons sur une petite partie du terrain et après quelques années de dur labeur, nous y ajoutons une pièce, mais le plan couvre les quatre coins du terrain. Et c'est Dieu qui a fait le plan. Et nous, en bâtissant, nous n'arrivons jamais à le réaliser jusqu'au bout, jamais jusqu'au point de l'enrouler pour le ranger en disant « Ouf, j'ai érigé le dernier mur, j'ai posé la dernière étagère et j'ai mis la dernière porte sur ses gonds. » Ce que l'homme recherche en lui-même, quelque chose qui le rendra capable de vivre une pleine vie humaine et une pleine vie chrétienne qui puisse satisfaire Dieu. Et quand l'homme regarde dans son propre cœur, qui trouve-t-il en fait? Il trouve qu'il n'est rien, qu'il n'a rien et qu'il ne peut rien. La différence entre l'homme instruit et l'homme qui ne l'est pas est que l'homme instruit sait qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. L'oracle déclare que Socrate était l'homme le plus sage de la Grèce et Socrate expliqua que l'oracle a pu le dire parce que il était le seul homme en Grèce qui savait qu'il ne savait rien. Ainsi, voyez-vous, le moi, votre moi naturel, dira « Attention, je suis suédois. » Bien sûr, c'est une réaction normale. Ou bien « Je suis italien. » c'est bien, mais votre réaction est aussi normale. Moi, je suis un mélange d'anglais et d'allemand, et je réagis de la même façon. Nous sommes donc tous les mêmes, indépendamment de nos particularismes raciaux, que nous venions d'Afrique, de l'Inde ou de tout autre pays. Et moi-même, je ne sais rien et je ne peux rien faire de moi-même. Mais voyez-vous, le nouveau moi prend le contrôle de ma vie, ça va changer. Qu'est-ce que le nouveau moi possède? Voyons cela. Chers amis, le nouveau moi, la nouvelle personne, possède le Christ et dit: ce n'est plus la vieille personne, l'ignorante, celle qui ne sait rien et qui ne fait rien et qui ne représente rien. Celle-là, elle est morte quand j'ai cru en Jésus-Christ. Je répète, le nouveau moi prend le contrôle de ma vie. Qu'est-ce que veut dire le nouveau moi? Qu'est-ce qu'il possède? Chers amis, le nouveau moi, la nouvelle personne, elle possède le Christ et elle dit: ce n'est plus la vieille personne, l'ignorante, celle qui ne sait rien, ne fait rien et qui ne représente rien, car celle-là, elle est morte quand j'ai cru et accepté Christ. Maintenant, c'est un nouvel homme en Christ Jésus le Seigneur. Et maintenant, je n'ai plus honte ni peur de dire moi. Parce que quand je dis moi, je ne veux pas dire moi, mais le Christ qui vit en moi. Je veux dire le nouvel homme en Christ. Colossiens chapitre 1, verset 27. Là, il est dit: Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans Éphésiens chapitre 1, verset 6, il est dit: Dieu m'a accordé une grâce en Jésus-Christ. Et nous avons également Colossiens chapitre 2, verset 10, où il est dit: j'ai tout pleinement en Christ. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 30, saint Paul écrit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et même rédemption. Ça vaut la peine de répéter ce passage. Voyez-vous, parce que quand je dis « moi », je ne veux pas dire moi, mais le Christ qui, lui, vit en moi. Ça change tout. Je veux dire le nouvel homme en Christ. Et Colossiens, chapitre 1, verset 27, nous dit: Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et notez Éphésiens, chapitre 1, verset 6, Dieu m'a accordé une grâce en Jésus-Christ. Notez Colossiens chapitre 2 verset 10. J'ai absolument tout pleinement en Christ. Et dans la première épître aux Corinthiens chapitre 1 verset 30, notre saint Paul écrit que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ainsi, voyez-vous, Jésus-Christ est ce qu'il nous faut. Il a ce qu'il nous faut. Il sait ce que nous avons besoin de savoir, ce qu'il peut faire en nous, produisant en nous ce qui est agréable à ses yeux. Vous dites: cela m'exclut entièrement. Alors, où est mon ambition? Où est ma réputation? Où est ma renommée? Que vais-je y gagner? Chers amis, vous gagnez le Christ et la gloire et l'efficacité et le monde à venir et les esprits des justes parvenus à la perfection. Oui, le Christ est l'alliance éternelle et les myriades qui forment les cœurs des anges et l'assemblée des premiers-nés et la nouvelle Jérusalem. Et auparavant, vous avez le privilège de servir les hommes ici-bas. Voilà donc ce que vous y gagnez. Mais l'amour de Dieu est trop sage pour vous laisser vous pavaner et vous vanter et cultiver votre égoïsme et nourrir votre moi. Le Christ travaille en nous jusqu'à ce que sa stature soit devenue parfaite en nous. Quel grand christianisme est donc le nôtre? Mais quelle bande de gens indignes nous sommes, il faut bien le dire, osant nous lever pour prêcher à des auditeurs intelligents que l'essence et le but suprême du Christ est de sauver les hommes de l'enfer. Il est prouvé que 50% des super-intelligents ne croient même pas qu'il y a un enfer. Le but essentiel de Dieu en sauvant les hommes n'est pas de les arracher à l'enfer, mais de les recréer à l'image du Christ et de les rendre comme Dieu les désire vraiment. Et Dieu n'en aura jamais fini avec nous avant le jour où nous le verrons face à face et où son nom, son saint nom, sera sur nos fronts et nous serons enfin comme lui. Quel christianisme bon marché, galvaudé, mercantile est celui qui dit « J'étais endetté, mais Jésus est venu payer ma dette. » C'est bien, en effet, ce qu'il a fait. Mais pourquoi insister là-dessus? J'allais en enfer et Jésus m'a arrêté et m'a sauvé. Il l'a fait, mais ce n'est pas la chose la plus importante à souligner. Mes chers amis, sur quoi devons-nous insister? Sur le fait que Dieu m'a sauvé pour me rendre semblable à son Fils. Et lorsque il m'a saisi dans ma course effrénée, on peut le dire, en allant tout droit vers l'enfer, et qu'il m'a fait faire demi-tour, et lorsque il m'a renouvelé, il a mis fin au vieux moi et a créé en moi un homme nouveau. Son but était de reproduire en moi la beauté de son Fils bien-aimé. Et aucun chrétien n'est où il doit être avant la beauté du Fils de Dieu n'ait été carrément reproduite dans sa vie chrétienne. Et c'est nécessairement une question de degré. Il n'y a certainement jamais un moment où l'on peut regarder à son cœur et dire « Oh, ça y est, et maintenant je vois le travail achevé. Le Seigneur a signé la peinture, le profil a belle image et est terminée. Mais Jésus-Christ nous a envoyé comme cadeau le Saint-Esprit. Et personne ne dira cela, personne même s'il était comme le Christ, charitable, plein d'amour, de paix, de grâce, de miséricorde, de bonté et de foi. Il ne s'en doutera pas et il demandera aux gens de prier pour lui. Il lira la Bible avec larmes et dira « Ô Dieu, je veux être comme ton Fils bien-aimé. » Voyez-vous, Dieu sait qu'il a quelques ressemblances avec son Fils. Et son entourage aussi le sait. Mais que les anges, je suppose, mais lui, il ne le sait pas. L'humilité ne regarde jamais à l'intérieur de soi. L'humilité, elle regarde toujours à l'extérieur. Je répète, Dieu sait qu'il a quelques ressemblances avec son Fils et son entourage aussi le sait très bien, ainsi que les anges, ne n'oublions pas. Et je suppose que lui, il ne le sait peut-être pas. Voyez-vous, l'humilité, c'est ça. L'humilité ne regarde jamais à l'intérieur de soi. Et l'humilité regarde toujours à l'extérieur. Maintenant, voici l'opération pratique. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 30. Toujours davantage du Christ et toujours moins de moi. Voici donc la souffrance de la croix pour moi. J'étais crucifié avec le Christ et maintenant Dieu veut que cette crucifixion soit une réalité. Et cette réalité se produit par degrés. La paix et la puissance et l'efficacité augmentent. Et ceci dans la mesure où ce n'est plus moi, mais que c'est le Christ qui vit en moi. Qui va l'emporter? Est-ce moi ou le Christ? Sera-ce ma justice? Eh bien non, ce sera la justice du Christ. Sera-ce, par exemple, mon honneur et ma louange? Pas du tout. L'honneur et la louange sont uniquement pour Christ. Sera-ce mon choix? Non plus. C'est le choix du Christ. Peut-être ce sont mes plans. Pas du tout. Non, ce sont les plans du Christ. Voyez-vous, nous n'entendons plus cela que dans les cantiques. Et nous chantons de belles paroles, il faut bien le dire, mais nous ne les mettons jamais en pratique ou rarement. Nous sommes comme l'homme qui se regarde dans un miroir et qui oublie ensuite ce qu'il est. Nous chantons par exemple « Et maintenant, et pour toujours et à jamais, tous sont joug. » Nous sommes sous ton joug et je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Et nous fermons le recueil. Je répète, et maintenant, et pour jamais, sous ton joug je me plie. Je ne puis vivre désormais, Jésus, que de ta vie. Et nous fermons maintenant ce recueil. Il faut que cela devienne pratique, que cela devienne opérant. Il faut que cette riche vérité objective devienne une expérience subjective. Sinon, voyez-vous, le christianisme est une farce, une illusion. Et quand c'est moi au lieu du Christ, eh bien, il me semble que c'est presque une horreur. Un des plus beaux versets de la Bible se trouve dans le psaume 90. Là, il est dit que la grâce du Seigneur soit sur nous. L'auteur anonyme de la théologie germanique nous dit que rien ne brûle en enfer que je, moi, mon, mien. Voilà le carburant de l'enfer. Je répète, ce théologien germanique nous dit que rien ne brûle en enfer aussi bien que le « je », le « moi », le « mon » et le « mien ». Voilà donc le carburant excellent de l'enfer. Comme c'est affreux, indiciblement affreux, on peut bien le dire. Comme Néron était vraiment affreux, comme il est laid cet homme qui tue. Vous dites, je ne suis pas un errant, pas du tout. Je ne suis pas un assassin, encore moins. Non. Mais la Bible dit que celui qui est souillé se souille encore. La culture, l'éducation, la civilisation moderne empêchent le monde d'aller en enfer plus vite qu'il ne le ferait autrement. Mais nous, nous portons tous en nous, quoi ? Eh bien, le germe de la destruction. Il n'y a pas de péché commis dont nous n'ayons la semence en nous. Que Dieu enlève le sel de la préservation, et nous pourrions alors, du jour au lendemain, changer, comme le moi est laid, et comme le Seigneur notre Dieu est bon, je répète, mais nous portons tous en nous, que nous le voulons ou pas, le germe de la destruction. Il n'y a pas de péché commis dont nous n'ayons la semence en nous, et que Dieu enlève le sel de la préservation. Et là, nous pourrions, du jour au lendemain, changer, comme le moi est vraiment laid. Mais comme le Seigneur, notre Dieu, lui, il est beau. Aldous Huxley a dit ceci. Quelque chose que j'ai apprécié, que mon règne disparaisse. Que mon règne disparaisse. C'est le corollaire nécessaire de « que ton règne vienne ». Je répète, « que ton règne disparaisse » et « que ton règne vienne ». Et je le redis parce que je l'ai mal dit. Vous avez bien compris et vous notez dans votre cœur que le « moi » on a parlé du moi, que donc mon règne disparaisse, que ce soit plus moi, mon règne qui se trouve assis sur le fauteuil. C'est le corollaire nécessaire de que ton règne vienne et que lui, Jésus-Christ, soit assis sur ce fauteuil, et pas moi. Et cependant, nous osons prier chaque dimanche que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Comme ça. Pourquoi prions-nous cela? Son royaume ne peut jamais venir avant que le mien ne s'en aille. c'est cela. Il faut que le moi disparaisse. Quand je ne serai plus roi de ma vie sur le fauteuil, alors il en deviendra roi, lui, Jésus-Christ. Tant que j'ai été crucifié avec Christ, dit notre cher apôtre, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Nous ne devons pas seulement nous contenter de citer ces mots, mais ils doivent devenir une vivante réalité en nous. Chers amis, voulez-vous que Dieu fasse quelque chose pour vous, de sorte que ce ne soit plus vous qui vivez, mais que ce soit bien le Christ qui vit en vous. Chers amis, je voudrais, avant que nous terminions par la prière, vous donner quelques paroles, quelques pépites d'or. Tout est dans le Seigneur. Dieu le Tout-Puissant, celui dont la grandeur dépasse absolument tout, accomplit volontiers de grandes choses. Cependant, il ne peut que rarement les accomplir parce que nous lui barrons la route par notre propre grandeur, notre propre gloire et notre propre sécurité. Aussi nous adresse-t-il cet appel. Abaissez-vous, devenez petit et humble. Dieu n'accomplit de grandes choses qu'auprès des petits qui ne lui barrent pas le chemin. Jésus-Christ nous apprend à prier que ta volonté soit faite. Il nous fait ainsi la grâce d'exclure l'accomplissement de notre volonté. Car celle-ci est limitée, elle est pleine d'erreurs qui pourraient nous entraîner dans le malheur. Mais si la volonté de Dieu s'accomplit, c'est celle de la sagesse parfaite et de l'amour absolu. Oui, Dieu seul sait ce qui est pour le bien de l'homme, tandis que nous l'ignorons. Voilà pourquoi il te faut prier en sacrifiant tes désirs et ta volonté. Père, que ta volonté soit faite. Ami, livre-toi totalement à la volonté divine et tu auras choisi la meilleure part pour ta vie tout entière, car la volonté de Dieu te conduira dans l'amour le plus grand et au bout le plus glorieux. N'oublie jamais cela. Oui, cher ami, il y a bien des choses utiles et désirables dans ce monde, mais il n'y en a qu'une qui soit absolument nécessaire. Si on la possède, on peut être privé de tout le reste et quand même être heureux. Mais si on ne l'a pas, on est perdu, même si tous les trésors de la terre nous appartiennent. Est-ce la fortune? Jamais de la vie. Il y a nombre de gens très pauvres qui sont malgré tout heureux et satisfait. Et cela santé? Pas non plus. Certains ont connu les joies les plus profondes de leur vie sur un lit de maladie. Alors, est-ce l'amour, le bonheur conjugal? Beaucoup, surtout parmi les jeunes, rêvent de trouver un bon mari ou une charmante épouse et de fonder un foyer heureux. Il n'y a rien de mal à cela. Mais en dernière analyse, ce n'est pas là qu'ils trouveront le bonheur auquel ils aspirent. Combien croyons être déjà au septième ciel ont été amèrement déçus par la suite. Tout bonheur terrestre est extrêmement fragile. La preuve, le nombre sans cesse croissant de divorces. Donc, est-ce l'aisance et le succès? Absolument pas. Tout cela peut laisser un terrible sentiment de vide. Notre époque en sait quelque chose. Plus d'une vie qui semblait une réussite sur tous les plans s'est achevée dans la misère, le chagrin ou l'ennui. Est-ce un bon renom? Eh bien, celui qui a bonne conscience peut supporter la plus odieuse des calomnies. Un homme honnête, qu'on essaye de noircir tant qu'on peut, est généralement plus heureux qu'un bon hypocrite que ses semblables couvrent de gloire. On dit bien qu'un bon renom vaut mieux que beaucoup d'argent. Mais même ce bon renom n'est pas du tout la seule chose nécessaire. Car la Bible nous dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Saint Matthieu chapitre 16, verset 26. La question de Jésus-Christ nous fait entrevoir la seule chose nécessaire, c'est un cœur ouvert à Jésus-Christ, une expérience personnelle de son salut. Nous ne pouvons pas nous passer de cela, car sans ce si grand salut, selon Hébreux chapitre 2 verset 3, nous ne pourrons jamais avoir accès en la présence de Dieu, ni subsister devant son tribunal. Chers amis, nous allons prier maintenant. Ô notre Dieu, veuille disposer toi-même nos cœurs à te chercher dans ce jour. Et notre cœur nous dit de ta part, cherchez ma face. Fais lever sur nous la clarté de ta face, ô Éternel. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Et nous appelons sur nous toutes tes bénédictions en Jésus, notre Sauveur. Ô pénètre nos cœurs de reconnaissance et d'amour envers toi. Que te rendrons-nous, Seigneur, pour tous tes bienfaits? Ouvre notre bouche, afin qu'elle raconte tes louanges, et que notre langue te psalmodie et ne se taise point. Ô Jésus-Christ, toi seul es le chemin, la vérité, la vie de nos âmes. Demeure en nous, et nous en toi, comme toi-même tu demeures dans le Père. Hors de toi, nous ne pouvons rien. En toi, nous pouvons tout cette chose, que nous demeurions attachés à toi, divin cep, et ceci pour la joie de notre vie présente et pour notre salut éternel, afin qu'étant par ta grâce affranchis du péché, nous vivions désormais pour la justice et dans la sainteté à laquelle tu nous appelles. Que ta grâce et ta paix reposent sur nous, qu'elles reposent aussi sur tous les nôtres, auprès et au loin, et que tous ensemble nous puissions t'invoquer et te servir. Nous te le demandons pour l'amour de ton saint nom. Amen. Et chers amis, sachez que Dieu aime tous ceux qui ont vraiment accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Par contre, ceux qui ont refusé son salut n'obtiendront jamais la rédemption. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Saint Livre et dans Saint Matthieu chapitre 7 verset 7. Chers amis, si vous avez placé votre foi, votre vie en Jésus-Christ, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et là, vous pouvez noter dans votre cœur Romains, chapitre 8, verset 1. Chers amis, soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et j'espère que vous continuerez de les écouter pour vous aider à grandir dans le Seigneur Jésus-Christ et que votre foi puisse s'affermir encore davantage. Et moi, y compris, croyez-moi, j'en ai aussi besoin. Au revoir, mes très chers amis. Au revoir.